France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue ce soir encore dans Les Informés. Je vais vous dire comme je vous vois là. Vous êtes soit dans votre canapé, bien calé, installé, branché sur le canal 27 de la TNT, ou bien peut-être encore mieux, vous êtes dans votre voiture, 283 km de bouchon ce soir, ça veut dire que finalement vous avez trouvé de l'essence, vous partez en week-end, vous êtes dans les embouteillages, et pendant une heure, vous n'allez pas être dérangé pendant votre émission préférée, pendant Les Informés, que je vais vous présenter maintenant. Bonsoir Virginie Le Petit.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'édition à Courrier International, Soizic Kemener en face de vous, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédactrice en chef politique de Marianne, vous êtes également l'auteur de L'Irrésistible Ascension, les dessous d'une campagne ascensionnelle. Une campagne insensée, c'est aux éditions Flammarion. Et si je vous ai mis à côté de moi, c'est pour vous surveiller, pour que vous ne soyez pas en train de tweeter tout le temps sur votre téléphone. Jean-Christophe Fromentin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Député maire divers droite de Neuilly-sur-Seine, initiateur du mouvement des 577, les indépendants. Et enfin, Bruno Dive, bonsoir Bruno.
Bonsoir Olivier.
Éditorialiste à Sud-Ouest. Allez, on passe tout de suite à notre premier débat.
Les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Mais nous ouvrirons des négociations pour rejoindre l'accord de Paris ou alors mettre en place de nouvelles transactions dans des conditions et modalités qui seront justes et équitables envers les États-Unis, les entreprises, leurs ouvriers, leurs habitants.
Voilà, petit extrait de ce discours de Donald Trump que vous avez pu suivre durant l'édition spéciale de France Info hier soir. Depuis, des torrents d'acrimonie se déversent dans des fleuves de protestations. Je vais peut-être être un tout petit peu provoque. Virginie Le Petit, et si Donald Trump avait raison finalement?
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il
ait
raison.
Ça ne m'étonne pas.
Non, mais parce que, en fait, en s'isolant, en se retirant de l'accord de Paris, contrairement à ce qu'il affirme, il ne pourra pas renégocier. Et il rend peut-être service finalement à tous les signataires de l'accord, parce qu'il retire aux États-Unis la possibilité de participer à tout ce qui va être l'élaboration du dispositif concret. Et les États-Unis disposaient d'un droit de veto, ils ne l'auront plus. Et par ailleurs, c'est un État fédéral, et lui peut vouloir se retirer de l'accord de Paris, mais certains États et certaines villes américaines, elles, peuvent vouloir continuer à faire les efforts. Donc bon, bah tant pis.
Donc pour vous, c'est un scandale ?
Non, c'est pas un scandale, c'est tant pis pour Donald Trump, tant pis pour la politique qu'il veut mener, et tant pis pour une partie de ses électeurs. Il va contenter les électeurs des États miniers, des États du charbon, qui sont le Wyoming et qui sont certains États du Midwest, mais par ailleurs, il mécontente une grande partie de son électorat, et certains industriels, donc tant pis pour lui.
Bruno Dive, il mécontente une partie de son électorat, mais après tout, c'était une promesse de campagne.
Oui, il l'a dit, c'est pas tellement une surprise qu'il le fasse. Ce qui est surprenant, c'est qu'il le dise peut-être aussi rapidement, mais comme ça vient d'être dit, en fait, heureusement, Donald Trump, ça n'est pas l'Amérique, et heureusement, les présidents américains n'ont pas autant de pouvoir, déjà, que les présidents français, par exemple, et on a vu déjà que un certain nombre d'États, en effet, veulent continuer à jouer le jeu, et même à signer, s'ils le peuvent, l'accord de Paris, et non des moindres, la Californie, l'État de New York. Les grandes entreprises, Trump prétend toujours s'adosser aux grandes entreprises, défend les grandes entreprises américaines, mais hormis celles qui ont des intérêts directs dans le charbon ou quelques constructeurs automobiles, la plupart de l'économie américaine a déjà pris le tournant de la transition énergétique. Et donc, beaucoup d'entreprises ont également dit qu'elles allaient respecter les accords de Paris. Et puis s'ajoute à ça qu'il y a une question de délai. Il y a quand même, il a tout de même choisi la voie la plus lente du retrait de ces accords, qui nous mène à 2020. 2020, c'est la date de la prochaine élection américaine.
Voilà, ça veut dire qu'il va mettre 4 ans à sortir.
Ce qu'il est en train de défaire, un autre président, il faut l'espérer, pourra le refaire assez rapidement. Donc j'ai envie de dire, moi aussi, pour faire un peu de provoque, finalement, cette décision n'a pas beaucoup d'importance, même si elle envoie évidemment un signal très négatif au reste du monde. Elle est surtout très mauvaise pour l'image des États-Unis et pour l'image de Donald Trump.
Jean-Christophe Fromentin, une décision qui n'a pas beaucoup d'importance finalement.
Non, elle est importante, mais je crois qu'effectivement il ne faut pas la surjouer dans l'indignation. C'est donner beaucoup d'importance à Trump par rapport à la portée de sa décision.
Vous avez l'impression qu'il y en a qui surjouent l'indignation là?
Non, que nous, oui, on surjoue un peu l'indignation parce qu'il faut quand même regarder la portée de sa cette décision, elle est pondérée par deux éléments. C'est un État fédéral qui laisse à beaucoup d'États la possibilité d'aller dans le sens des accords de la COP 21. Et puis, le deuxième élément, qui est à mon avis assez stratégique, c'est la position des entreprises. On est dans un monde globalisé. Les entreprises, elles continuent et elles veulent faire du commerce international. Il suffit qu'un certain nombre d'États disent « Attention, nous, on considère que c'est finalement un acte de concurrence déloyale, puisque des codes de respect de l'environnement qu'on demande à nos entreprises de respecter dans le cadre des accords de la COP 21 ne seraient pas ou ne seront pas respectés par les États-Unis. »
Vous pensez que ça peut empêcher des grandes entreprises de commercer à l'international?
La décision de Donald Trump, que là, c'est un vrai sujet pour les Européens, un certain nombre de pays, dont la Chine, qui à mon avis ne vont pas manquer de mettre ça dans les négociations internationales. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'il n'ait pas un certain nombre d'inconvénients aussi à ne pas se doter d'un certain nombre d'outils de nature à protéger l'environnement et qui continuent à nous envoyer dans le monde entier des produits qui ne seront pas justement respectueux de ça. Et donc la déclaration de Trump, il faut la pondérer par une dimension politique liée au fait que les États-Unis sont un État fédéral et par la réaction des entreprises qui pourraient, si l'Europe prend en particulier ses responsabilités, de dire ben nous on va renégocier les droits de douane avec les Américains pour que finalement l'avantage compétitif qu'ils pensent se donner devienne un inconvénient lié à leur capacité à faire du commerce dans le monde. Tout simplement, et voilà, là on a une arme redoutable, pour autant que l'Europe et la Chine, par exemple, constituent un axe de réponse à cette...
Ils n'ont pas réussi à s'entendre cet après-midi, mais un problème accessoire, ça pourrait revenir.
Je pense que là, il y a un intérêt commun qui peut être extrêmement redoutable par rapport au commerce mondial.
Sois-y, Kemener, je vais vous donner la parole, mais il est 20h10 sur France Info, et vous le savez, à 20h10, c'est l'heure de l'info, Agathe Mavet.
Sourire aux lèvres, Thomas Pesquet à la sortie de sa capsule Soyouz. Le spationaute français et son camarade russe Oleg Novitski ont parfaitement réussi cet après-midi leur retour sur Terre. Les deux hommes qui ont ensuite été pris en charge par des médecins pour un premier examen. Thomas Pesquet va ensuite rejoindre Cologne en Allemagne pour plusieurs semaines de rééducation. 15 millions de dollars pour lutter contre le changement climatique, c'est le don annoncé par le milliardaire américain Michael Bloomberg pour soutenir les efforts des Nations Unies au lendemain de la décision historique de Trump qui retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. L'économie verte est l'économie du futur, confirme Antonio Guterres à l'ONU. Il dit espérer que la société civile et les entreprises américaines prendront le contre-pied de cette marche arrière décidée par Trump. Le transfert vers la France de deux hommes interpellés en Belgique dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015 à Paris. Deux Belges qui devraient être mis en examen, soupçonnés d'avoir fourni des armes aux tueurs de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Comment faire pour sélectionner les candidats à l'université dans les filières où la demande dépasse le nombre de places, en STAPS par exemple? Les facultés pourront bien en septembre recourir au tirage au sort malgré le recours déposé par plusieurs associations. Recours rejeté aujourd'hui par le Conseil d'État. Et puis les Français à Roland-Garros, Lucas Pouille a fini par craquer, éliminé par l'Espagnol Albert Ramos à l'issue de 5-7 et d'un match de 3h45. De son côté, Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et premier débat de la soirée, évidemment, cette décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris. Vous l'avez entendu, Sozid Kemener, Donald Trump a dit « Je préfère protéger les habitants de Pittsburgh avant ceux de Paris ». C'est finalement la nouvelle version de la Corrèze avant Zambèze.
Mais exactement, et vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'il fait un message au monde, alors qu'il y a un message calamiteux qui est entendu et qui a des répercussions que l'on sait et qui ont été décrites, mais c'est surtout un message à l'Amérique et aux Américains qui fait. Il fait un message à qui? Aux 40% d'Américains qu'ils soutiennent, parce que Trump, il faut pas oublier qu'il a encaissé deux camouflets sur les décrets anti-immigration. Il faut pas oublier non plus que le 8 juin, c'est la semaine prochaine, on a l'ancien patron du FBI, James Comey, qui doit être normalement entendu par les sénateurs. Donc, il est dans une situation qui est pas très facile sur le plan intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il dit? il dit aux Américains qui le soutiennent encore, regardez, je respecte ma promesse.
Mais là, il est populaire, parce que Virginie Le Petit nous a dit l'inverse.
Bah, disons que on regarde, il y a un sondage qui dit par exemple que 46%, alors c'est un sondage, 46% des électeurs de Trump étaient contre le maintien dans l'accord de Paris et il y a 22% d'indécis. Donc il joue là-dessus, il joue sur son opinion publique et il essaie de dire regardez ce que je suis capable de faire encore, j'ai encore les mains libres pour faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui effectivement aura des répercussions, même si bon, c'est dans 4 ans, c'est pas tout de suite. Donc il y a un message de communication avant tout.
Donc finalement, Donald Trump n'est pas tout seul aux États-Unis à être sur cette ligne-là. Il y a plein d'Américains qui le soutiennent, quoi.
Il n'est pas tout seul. Il y a plein d'Américains qui sont soit climato-sceptiques, soit qui ne veulent pas d'ingérence en fait dans la façon dont les États-Unis pourront gérer le climat et doivent gérer leur économie. Donc ça, c'est certain. Simplement, ces gens-là non plus ne sont pas tout seuls. Il y a aussi d'autres personnes et d'autres intérêts. Et ce que propose Donald Trump, une Amérique complètement isolée, économiquement complètement isolée sur le climat et même diplomatiquement sans doute du
reste du
monde.
Mais ça, vous y croyez vraiment
C'est ce qu'il est en train quand même. En tout cas, là, le symbole est là. Et ben oui, il s'est retiré d'un accord international qui avait été dûment négocié par son prédécesseur. Bon, en plus, ça pose quand même la question de ce que valent ces accords-là. C'est quand même assez problématique. Et oui, il est quand même en train, en tout cas, d'essayer de montrer ça. Et ça peut effectivement le servir à court terme. À long terme, les conséquences vont être beaucoup plus désastreuses, à mon avis.
Jean-Christophe Fromentin, Donald Trump n'est-il pas finalement en train de constituer contre lui, contre sa politique, la plus formidable coalition qui va se mettre en branle pour faire baisser la température de la planète, quoi?
Moi, je crois pas du tout, oui, à la pérennité de ce type de réaction, parce que il est surtout en train de faire prendre du retard à l'économie américaine. Il y a forcément autour des
mais
produits
est-ce que c'est
à travers
vrai,
le
ça
monde.
Est-ce qu'on surestime pas le On est tout le temps en train d'avancer le nombre d'emplois potentiels dans les énergies renouvelables en attendant.
Non, mais c'est une réalité, oui. Et tous les États ont ce qu'on appelle des règles non douanières, non tarifaires, qui demandent à ce que les produits soient plus en phase avec ces grandes politiques environnementale. Donc, chaque pays essaye d'avancer, c'est plus ou moins facile parce que ça coûte cher, c'est de l'innovation, c'est des investissements pour amener les productions vers ces normes plus respectueuses de l'environnement. Donc, tous les pays qui reculent ou qui font de surplace sont des pays qui sont en sursis et qui vont avoir de grandes difficultés dans les années à venir par rapport à leur développement et à leur économique et à leur compétitivité. Donc, compétitivité hors prix. Donc, je crois que Donald Trump est en train de gager totalement l'économie américaine, et dans un monde très fragmenté où le commerce mondial, où les produits se fabriquent aux quatre coins du monde, moi je pense que beaucoup d'industriels américains vont délocaliser davantage pour justement ne pas se prendre le risque d'être dans cette nasse dans laquelle il emmène l'économie américaine. Donc c'est un très mauvais calcul, pas si compliqué que ça à expliquer, mais c'est, je crois, aux hommes politiques, aux acteurs politiques d'opposition aux États-Unis, de faire un peu de pédagogie. Et il faut faire attention au surjeu d'indignation pour justement ne pas avoir l'air d'attaquer la souveraineté américaine, qui est l'arme forte de Donald Trump.
Je vous vois vous agiter, Virginie.
Oui, parce que vous parliez des emplois. Donald Trump a promis des emplois. C'est vraiment un leitmotiv, il le répète à l'envi. Et notamment, là, pour contenter ses électeurs, il a relancé des programmes qui sont soit des pipelines, soit des exploitations de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis. Ça, par exemple, vous dites les emplois sur les ENR, sur les énergies renouvelables, on ne sait pas trop. Là-dessus, ce sont des emplois qui sont pas du tout pérennes. On l'a vu, Barack Obama avait fait le même genre de choses. C'est très, très lié au prix du pétrole. Et il y a désormais des villes fantômes aux États-Unis qui se sont construites sur le gaz de schiste, où ça a duré 2 ans. Tous les emplois sont partis parce que c'est plus du tout intéressant.
Oui, parce que le prix du pétrole a baissé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça fait énormément de dégâts environnementaux, mais même sans parler de ça, même en étant pragmatique, puisqu'il se revendique pragmatique, cette politique-là qu'il mène, qui n'est pas une politique environnementale, c'est une politique de très court terme, et les emplois qu'il pourrait créer, ce sont des emplois de très court terme.
Et puis, Non, pour moi, c'est une démarche isolationniste dans laquelle Donald Trump entraîne son pays. Moi, je l'assimile un peu à la décision qui a été prise il y a maintenant près de 100 ans, c'était quand les États-Unis se sont retirés de la SDN. Alors, c'était un contexte différent, c'était le Congrès qui avait voté contre la décision du président Wilson à l'époque, mais ça avait eu des conséquences tout de même assez catastrophiques, comme on l'a vu. Là, cette fois-ci, heureusement, c'est une, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aura des conséquences moins grave, en tout cas, il faut l'espérer, parce que le réchauffement climatique. On peut revenir, on a vu qu'on pouvait revenir dessus dans 4 ans, mais on va prendre du retard, on va perdre du temps. Et vous disiez tout à l'heure, il est en train de se couper du reste du monde. Il y a un peu de ça. Et je crois que Donald Trump, aujourd'hui, c'est la chance de l'Europe. Il y a une conjonction extraordinaire, le Brexit d'une part, l'élection et la politique de Trump d'autre part, qui paradoxalement, alors que l'Europe était en perdition, enfin se cherchait il y a encore 2 ans, aujourd'hui on voit qu'il y a une conjonction des astres, comme on dit beaucoup maintenant, surtout avec Thomas Pesquet, il y a une conjonction qui est extrêmement favorable. On voit bien les déclarations d'Angela Merkel, l'élection d'Emmanuel Macron,
on va y venir dans quelques minutes.
Mais on voit tout de même que là il peut y avoir une puissance montante qui est la puissance européenne, une puissance un peu déclinante qui est la puissance américaine.
Choisis qui m'aider.
Ce qui est sûr dans ce qui a été annoncé par Trump, c'est que les chiffres des climatologues sont alarmistes et alarmants. C'est-à-dire que c'est 0,3 points hein, que ça peut coûter en termes de réchauffement. Vous savez, on calcule par rapport à l'ère pré-industrielle en disant voilà, il faut pas dépasser les 2 degrés. Donc l'accord de Paris déjà permet de limiter un peu ça,
ouais,
mais c'est 0,9 hein, très exactement. Mais là, on pense que le coût à porter en termes de réchauffement climatique est de 0,3 degrés en ce qui concerne la décision de Donald Trump. Donc, effectivement, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact et il va falloir, Laurent Fabius le disait, je crois, sur cette antenne ce matin, il va falloir que les autres pays se mobilisent à la fois pour faire encore plus et en même temps aussi pour compenser hein, le coût financier, parce qu'il y a aussi une histoire d'argent, évidemment.
Mais il y a une mobilisation peut-être mondiale qui est en train de naître, là.
Oui, alors, en sachant qu'on est dans un contexte préélectorale à la fois en France et en Allemagne, donc on peut pas s'empêcher de considérer, on va en parler tout de suite, mais que certaines déclarations qui ont pu être faites ne peuvent pas s'exonérer de ce contexte.
Et on va effectivement en parler, non pas tout de suite, mais dans 2 petites minutes, juste après les titres de l'actualité, Agathe Mavet.
Un homme de 38 ans désigné pour être le nouveau Premier ministre de l'Irlande, Leo Varadkar, vient d'être élu ce soir à la tête du parti de centre-droit. Il prendra donc la tête du gouvernement dans 10 jours. Leo Varadkar qui bouscule un peu la société irlandaise. Il est en effet métis d'origine indienne, mais aussi ouvertement homosexuel. Les cartes rebattues sur le plan de la diplomatie pour le climat après cette sortie historique des États-Unis de l'accord de Paris. Pékin s'affiche désormais parmi les leaders de cette bataille pour la planète. À Bruxelles, aujourd'hui, les dirigeants chinois ont réaffirmé leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Félicité par Emmanuel Macron, Thomas Pesquet de retour sur Terre. On est tous très fiers de vous, lui a dit le chef de l'État, alors que la capsule du spationaute français et de son camarade russe venait de se poser dans les steppes du Kazakhstan. Après plus de 200 jours dans l'espace, Thomas Pesquet doit maintenant subir des examens médicaux. Tension très forte à Kaboul, 4 personnes sont mortes lors de manifestations dans la capitale afghane. Des manifestations dispersées par la police qui a tiré à balles réelles. Les citoyens étaient descendus dans la rue pour réclamer la démission du gouvernement après l'attentat de mercredi qui a fait au moins 90 morts. Et puis l'homme qui a dégradé la tombe du général de Gaulle, condamné à 1 an de prison avec sursis. Le parquet avait requis contre lui 6 mois de prison ferme. Durant l'audience au tribunal de Chaumont, où il était jugé en comparution immédiate, le prévenu s'est excusé d'avoir brisé la croix au-dessus de la tombe à Colombelles-les-Deux-Églises.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et après la décision de Donald Trump de sortir du traité de Paris, on a l'impression que c'est un peu les États-Unis qui sortent de l'histoire. Alors qui, finalement, pour reprendre le flambeau de l'intelligence, de la beauté, de l'intelligence et de la modestie, j'ai peut-être une petite idée dont je voudrais vous parler, mais tiens, écoutez justement.
To all scientists, engineers, entrepreneurs, Responsible citizens, we were disappointed by the decision of the President of the United States. I want to say that they will find in France a second homeland. I call on them, come and work here with us.
Jean-Christophe Fromentin, vous avez compris quelque chose?
Ben, je crois qu'il est saisi de, il essaye de rebondir et de prendre la balle au bon, ce qui est une manière aussi de montrer que justement.
Mais c'était tout en anglais là, on a rien compris.
Il a parlé français, il a fait une version
française avant, quand même.
Française bien sûr avant, mais je crois que c'est pas mal de taper là où ça fait mal pour les Américains, c'est de dire bah écoutez voilà vous vous mettez en marge du monde. On sait que les Américains sont extrêmement angoissés de ne plus être le centre de gravité du monde. Ils sont angoissés par ce qui se passe en Chine, par ce qui pourrait se passer en Europe. Alors ils n'étaient pas très inquiets jusqu'à présent parce que c'était un peu désorganisé, mais je crois que leur dire et montrer demain un visage plus uni de l'Europe, et je crois montrer un nouvel axe avec la Chine, ce qui est extrêmement important pour les Américains qui ont très peur de ça, serait de nature, avec en plus des déclarations comme celle de Macron en anglais, qui invite les entreprises américaines à être investisseurs en Europe, serait vraiment de nature à déstabiliser Trump, qui a fait aussi beaucoup campagne sur le socle économique des États-Unis, et l'isolement économique de l'Amérique serait un signal extrêmement embêtant pour cette politique populiste qu'il mène depuis son élection.
Soazic Kemener, on a gardé évidemment l'extrait d'Emmanuel Macron en anglais parce que c'est historique, hein. C'est la première fois qu'un chef d'État français s'exprime solennellement, officiellement, en anglais. C'est un bon coup d'Emmanuel Macron.
Oui, évidemment, je vais pas vous dire le contraire. Alors, effectivement, on a tous eu ce petit plaisir un peu chauvin, il faut l'avouer, un peu
d'abord,
coupable.
D'abord, on a un président qui parle anglais.
Alors, d'abord, il parle anglais, et en plus, il pique le slogan de campagne de Donald Trump, hein, Make America Great Again, pour dire Make the World Great Again. Donc, il vole.
C'était le tweet. Qui était le plus retweeté d'un Français dans l'histoire de Twitter.
Bien sûr, ouais. Donc c'est effectivement, c'est drôle. Une fois qu'on a dépassé ça, on est quand même obligé de regarder pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne pour lui. C'est sa séquence internationale qui fonctionne très bien depuis une semaine, alors que sur le plan intérieur, de la politique intérieure, on sait bien que toute sa loi, son plan de moralisation de la vie publique, hein, je dis pas loi, parce qu'il y en a trois, en fait, qui a été présenté hier par François Bayrou, est heurté de plein fouet par l'affaire Ferrand, qui est un de ses plus proches. Donc effectivement, il a tout à fait intérêt. Et c'est bien joué, c'est un joli coup, effectivement, c'est un joli coup de communication, d'autant que ces images en anglais ont tourné toute la nuit pour nous en boucle sur les chaînes américaines, sur CNN. Donc effectivement, c'est plutôt bien joué dans un moment où il a besoin de ça, et puis dans un moment aussi où il porte le macronisme, il a toujours défendu, c'est un optimisme et aussi une certaine forme de volontarisme. Donc c'est ça qu'il est en train de porter devant les écrans américains, notamment.
Bruno Diff, c'est un très bon coup pour Emmanuel Macron.
Triple coup de maître. D'abord, il y a la réactivité. Je vais essayer de me souvenir de tout. La réactivité, parce qu'il réagit 2 heures après. Donc, c'est tout de même très important dans le monde dans lequel on vit.
C'était un peu attendu quand même. Hein,
Angela Merkel ne parle que ce matin. Donc, il est le premier à réagir. Du coup, c'est le deuxième bon coup. Il prend le leadership européen après avoir parlé donc avec ses homologues allemands et italiens. Il prend le leadership européen face aux États-Unis, ce qui surtout en France est toujours plutôt bien vu. Et le troisième coup, le plus formidable, je trouve, c'est qu'il s'adresse aux Américains, parce qu'il faut pas oublier qu'il s'adresse
vraiment aux Américains ou il se met en posture évidemment, de s'adresser aux Américains, regardé par les Français, quoi.
Je pense qu'il a été vu par plus d'Américains en direct que par de Français, parce qu'il était hier 23h et à cette heure-là sur la côte Est, il était 17h, 14h sur la côte Ouest, et donc les chaînes américaines retransmettaient son discours, donc il est probable qu'il y ait plus en direct, qu'il y ait plus d'Américains qui l'aient vu que de Français. Après, on va voir. Là, on est pour l'instant, effectivement, on est dans la posture, on est dans la réaction, on est dans la communication. C'est bien joué. Est-ce que s'il attire des entreprises américaines, des chercheurs américains en France et en Europe, comme il l'a proposé, ça sera encore mieux. Mais là, il faudra évidemment voir à l'usage.
Je vous vois faire un grand sourire, Virginie Lepetit.
Oui, parce qu'au-delà du discours, s'il veut attirer des chercheurs américains ou des chercheurs établis aux États-Unis, en France en particulier et en Europe, il va falloir leur donner plus de moyens et les payer mieux que ce qu'ils sont payés actuellement en France et en Europe.
Oui,
pour la comparaison est quand même sans appel. Donc oui, ça serait très bien, ça serait formidable qu'on attire des chercheurs américains sur le climat ou autre. En France, ça serait vraiment bien, mais il va falloir dépassait juste le stade du discours. Voilà, c'était ça qui me faisait rire. Et par ailleurs, Donald Trump a une hantise. Il ne veut pas qu'on rie de lui ou qu'on rie des États-Unis.
Ah bah là, c'est
ce qu'il ne cesse de répéter et c'est ce qu'il a fait. Voilà.
Les informés, vous restez bien en place dans ce studio. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la météo, le journal de 20h30. Et ce sera à nous, on va parler de Thomas Pesquet, justement.
Liberté.
Égalité.
Coopérer. En ce moment, c'est la semaine de la coopération agricole. Découvrez les coopératives agricoles dans toutes les régions françaises et participez aux animations. Rendez-vous sur notre site internet, lacoopérationagricole.coop.
C'est au Havre et nulle part ailleurs que vous passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Renseignements sur unétéauhavre2017.fr. France Info Météo avec Gauthier. Mobilier contemporain, made in France et garanti 10 ans. À découvrir dans nos magasins Gauthier et sur gauthier.fr.
Et avec surtout Élodie Calac.
Attention aux orages, une forte dégradation orageuse gagne le sud-ouest ce soir avec des orages forts, de la grêle, du vent. Demain matin, ce temps remontera vers le centre, la région parisienne, les Ardennes, puis il concernera le nord-est l'après-midi alors que les averses s'espaceront ailleurs. Dans le sud-est, on aura de belles éclaircies, quelques averses, voire un orage en montagne l'après-midi. Et puis sur le nord-ouest, la perturbation qui arrive par le Finistère ce soir donnera de la pluie le matin. Les éclaircies s'imposeront l'après-midi. Il fera encore 10 à 19 degrés le matin, l'après-midi encore 28 degrés à Strasbourg, Marseille, 27 à Lyon et Perpignan, mais il ne fera plus que 21 degrés à Lille, Paris, Limoges, 20 à Tours, Bordeaux et Toulouse, 18 degrés à Cherbourg. Dimanche, retour au calme, de belles éclaircies, 17 à 23 degrés, 25 à 29 pour le sud-est tout de même, et puis lundi, ça se gâtera sur la Bretagne, retour de la pluie.
20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et à 20h30, l'info, c'est avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Les États-Unis désormais isolés sur la scène internationale après leur retrait de l'accord de Paris sur le climat hier soir. Donald Trump compte tourner le dos dès maintenant à cet accord, mais ne pourra pas formellement en sortir avant novembre 2020. Qui coïncidera en fait avec la date de la prochaine présidentielle américaine. L'accord de Paris est irréversible, il sera mis en œuvre. La Chine, l'Inde et la Russie ont confirmé leur engagement, c'est ce qu'affirme ce soir Emmanuel Macron qui est apparu aux côtés de l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg. Retrait des États-Unis et aujourd'hui la presse américaine qui se fait l'écho de la brutalité de la décision du gouvernement américain. À Washington, pour France Info, Frédéric Carbone.
Un dessin du New York Times résume la situation de l'Amérique au lendemain de l'annonce de Donald Trump. Aux branches d'un grand arbre flottent des dizaines de drapeaux et à terre gît la bannière étoilée, le symbole d'une Amérique qui a choisi la voie solitaire, une impasse pour le journal qui écrit notamment « Il est clair désormais que ce président n'a rien à faire des risques du réchauffement climatique ». Le tabloïd New York Daily News traduit cela avec un titre choc « Vous pouvez tous crever ». Le ton de la presse répond à la brutalité du discours de Donald Trump et en est bien dans une forme de guerre idéologique. Un animateur vedette de la chaîne conservatrice Fox News dénonce ce qu'il appelle le fascisme libéral. Mais au-delà des invectives, il y a les faits avancés par Donald Trump pour justifier le retrait et que le Washington Post qualifie de fausse affirmation. Le journal de la capitale a également son explication sur la fameuse phrase « Je suis élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh et pas ceux de Paris ». Donald Trump aurait été très irrité par les propos d'Emmanuel Macron sur la poignée de main entre les deux hommes. Il a eu sa revanche quelques jours plus tard dans les jardins de la Maison-Blanche, conclut le Washington Post. Washington, Frédéric Carbone, France Info.
La filiale roumaine de Veolia, soupçonnée d'avoir versé plusieurs millions d'euros de pots de vin pour obtenir les faveurs des autorités locales, le parquet national financier ouvre une enquête en France visant le géant de l'eau. La Chine continue de faire son marché dans l'Hexagone. Créée il y a 250 ans en Lorraine, la célèbre cristallerie française Baccarat va passer entre les mains d'un fonds chinois. Aux Pays-Bas, la justice autorise le prélèvement ADN réclamé par une vingtaine de Néerlandais nés d'une fécondation in vitro sur l'ancien directeur d'une banque de sperme récemment décédé. Ils le soupçonnent d'être leur père biologique à tous. Retour sur terre impeccable pour Thomas Pesquet. Le spationaute français et son collègue russe sont atterris avec succès dans les steppes du Kazakhstan cet après-midi sous un ciel bleu limpide. Pesquet et Oleg Novitski reviennent sur terre après un séjour de près de 200 jours dans l'espace à bord de l'ISS. C'était l'un des meilleurs espoirs français à Roland-Garros et c'est fini pour lui. Lucas Pouille, 17e joueur mondial, s'incline au troisième tour face à l'Espagnol Albert Ramos en 5-7, 6-2, 3-6, 5-7, 6-2, 6-1. Il ne reste du coup que deux Français en lice, Richard Gasquet et Gaël Monfils, qui s'affronteront demain samedi pour une place en 8e de finale Porte d'Auteuil. Les informés, suite et fin à 20h33, Olivier Delagarde.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Les informés de France Info avec ce soir Virginie Le Petit de Courrier International, Soazig Kemener de Marianne, Bruno Dive de Sud-Ouest, Jean-Christophe Fromentin de Neuilly-sur-Seine.
C'est pas un média. Hein,
député maire de Neuilly-sur-Seine. Alors, on parlait de la planète qui se réchauffe. On va maintenant parler de celui qui a arrêté de tourner autour de cette planète. Je veux bien entendu parler de Thomas Pesquet, l'enfant prodigue, le chouchou de ces dames, le copain idéal, le gendre de rêve. Il est de retour. Cela fait 6 mois que l'on n'ignore plus rien de ses goûts culinaires, de ses amours en matière de musique, de la photo, de ses brillantes études. Et son retour a été suivi en direct depuis 9h ce matin sur des chaînes d'info continue. Pardon de poser la question comme ça, Jean-Christophe Fromentin, est-ce que Thomas Pesquet ne serait pas qu'un énorme coup de com'?
Écoutez, non. Moi, je prends le plaisir simple comme il vient. Vous voyez, je trouve que dans ce monde où l'actualité nous donne tellement de mauvaises nouvelles, avoir eu comme ça pendant 6 mois cet enthousiasme, cet émerveillement de Thomas Pesquet quand il parlait de la Terre comme un joyau, quand il s'adressait à des écoles, je trouve que c'est bien et qu'on a besoin de ça et qu'il faut accepter finalement cette forme de simplicité, de spontanéité, de sincérité comme elle vient et qu'on en a besoin. Et je crois qu'il a joué le jeu, il a dialogué avec plein de gens, c'est tout son mérite aussi, parce que ce n'est pas un animateur de télévision à la base, c'est un scientifique, et il a eu...
Enfin, il a fait le job quand même, en matière de com'.
Mais justement, je crois qu'il a eu ce talent de vulgarisateur, de partager ce qu'il vivait, et que ça a rendu service, et quand on voit l'actualité d'aujourd'hui et ce sujet Trump, ben, ça résonne plutôt bien, et c'est une bonne nouvelle, et il faut s'en réjouir.
Virginie Le Petit.
Alors moi, je pense que c'est une magnifique opération de com', et tant mieux. Tant mieux, parce que l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le CNES ont enfin compris qu'il fallait rivaliser avec la NASA sur ce champ-là. C'est quand même incroyable. On a eu 10 spationautes français. Je suis sûre qu'autour de cette table, on peut en citer à peine 4, dont Thomas Pesquet. Eh ben, tant mieux. Et c'est quelque chose, c'est un exercice maintenant auquel se prêtent les spationautes, les astronautes. Bon, les Américains le font depuis longtemps. Les Européens ont commencé à le faire avec, il y a 2 ans, c'était une Italienne.
Mais ça sert à quoi, pardon?
Cristoforetti. Ça sert à ce que le budget augmente. Parce que budget de la NASA a augmenté de quasiment, de l'ESA a augmenté de quasiment 10% cette année et que ces augmentations de budget, elles ne peuvent se faire qu'avec finalement l'aval de la population et la population, il faut qu'elle sache ce que fait l'ESA. Et donc c'est très important. Ce sont des scientifiques qui partent. Ils doivent avoir plusieurs cordes à leur arc. Il doit être un scientifique. Il doit être un astronaute. Donc physiquement, très affûté et il doit savoir communiquer. Moi, je trouve ça extrêmement bien.
Soazig Kemener.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une espèce de forme de réenchantement de la conquête spatiale. On n'en parlait plus ou assez peu. Finalement, on suivait la sonde Rosetta. On regardait
Ariane qui s'envolait.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait plus ce rapport à l'espace. On était bien loin du discours. Vous vous souvenez du discours sur la nouvelle frontière de Kennedy?
Bon,
ça date évidemment, mais il y avait plus de propension à se projeter. Et là, je trouve qu'il a réussi à faire ça de façon très intelligente, très didactique, à la fois en s'amusant avec ses photos de France. Mais je pense que c'est vraiment bien joué. Alors effectivement, c'est un coup de com', mais je pense que pour le coup, il faut le saluer.
Bruno Dive.
Oui, bon, c'est un excellent communicant. C'est, j'avais envie de dire, c'est un peu le Macron de l'espace, finalement. Il nous a régalé de ses photos magnifiques pendant toute la campagne électorale. C'est d'ailleurs assez amusant. Il est parti, je crois, à peu près au moment de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Il revient juste après son élection. Bon, c'est une coïncidence. Mais je crois qu'il faut pas s'arrêter là. C'est surtout un excellent spationaute. En tout cas, c'est ce que me disent, parce que je suis pas moi apte à en juger. C'est ce que me disent les gens du CNES.
Alors que Virginie Le Petit, elle est une journaliste scientifique avant de la Cour internationale.
Donc elle sera mieux placée que moi pour en parler, mais je vois qu'elle approuve. En tout cas, il a réussi, parce qu'il ne se contente pas de prendre des photos pendant 6 mois. Ils ont des tas de missions scientifiques à opérer.
Dont on parle finalement beaucoup moins.
Dont on parle de très peu, mais qu'il a...
Elles ont toutes été menées à bien.
Menées à bien, voilà, parfaitement réussi. Il a réussi 2 sorties dans l'espace, qui est un exercice tout de même assez difficile, bien que je n'y ai jamais participé, mais je crois que c'est assez difficile.
Presque aussi difficile qu'une campagne présidentielle,
voilà. Et lui, il revient sur Terre assez facilement. Donc, et je crois qu'en effet, son principal mérite aux yeux de l'opinion et pour les Français, c'est d'avoir, en effet, d'une certaine manière, réconcilié, renoué le fil entre les Français et l'espace, et d'avoir réenchanté un peu cette conquête spatiale.
Virginie Le Petit, ça sert à quelque chose, ces hommes dans l'espace ?
Alors, ça sert à mener des expériences. Ça sert également quand même à financer. Ils vont dans l'espace. Eux,
si on finance, c'est que ça sert à financer.
L'innovation spatiale, elle sert dans un premier temps à monter très haut et à aller dans l'espace. Et elle trouve ensuite des applications autres sur Terre et dans les airs. C'est un facteur de progrès vraiment très très important. Après, il y a cette part effectivement de dépassement de l'homme qui est particulièrement importante. Et il y a une dimension géopolitique. Être une nation spatiale, c'est vraiment pas rien. Et la preuve aujourd'hui, c'est que la Russie, qui a été une immense nation spatiale et qui quand même participe à l'ISS, participe activement, est quand même en plein déclin. Les astronautes russes, et notamment celui qui détient le record, et dont j'ai oublié le nom, qui détient le record du nombre de jours sur l'ISS, vient démissionner de l'agence spatiale russe, faute de moyens, parce que on n'arrive plus à les faire travailler, ce ne sont plus des scientifiques, ils ne parviennent plus à rien, il n'y a plus de programme. Et ça, moi je pense que pour une grande nation, avoir des programmes spatiaux qui se portent bien, les mener à bien, et avoir de grandes ambitions scientifiques et spatiales, c'est quelque chose d'important.
Soit dit en passant, soit dit Kemener, l'actualité spatiale se fait encore sans les Américains. Décidément, ils sont plus nulle part, quoi.
Oui, vous avez raison. Et en revanche, Bonaudy faisait la comparaison tout à l'heure avec Emmanuel Macron. On a vu qu'Emmanuel Macron a saisi tout le potentiel de Thomas Pesquet.
Non, parlez pas, parce qu'on va juste en parler juste après. Ne brûlez pas déjà le sujet, Brunaudy. Il n'y a plus d'Américains dans l'espace non plus. Tout un symbole.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait 6. Ils étaient 6 spationautes là, dans cette navette.
Il y avait des Russes, des Français.
Mais
il y avait Scott Kelly, l'un des deux jumeaux, qui est redescendu il y a à peine quelques mois.
Mais je me demande si, quand même, ils ne parlaient pas un peu tous en anglais dans la capsule. 20h40 sur France Info, on se retrouve dans 2 petites minutes. L'info, c'est avec Agathe Mavet.
Sa formule a fait mouche avec son tweet « Make our planet great again », un clin d'œil au slogan de Trump sur l'Amérique. Emmanuel Macron a battu un record. Son message est en effet devenu le tweet d'un Français le plus partagé de l'histoire, avec plus de 180 000 retweets ce soir. Le voilà maintenant à l'aéroport de Karaganda, le plus proche de son point de chute au Kazakhstan. Thomas Pesquet, visiblement fatigué par son retour sur Terre, il assiste en ce moment à une cérémonie traditionnelle kazakh en son honneur, avant de s'envoler pour Cologne, en Allemagne, où il va suivre une longue série d'examens médicaux. Une nouvelle étape dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Le frère du coordinateur présumé a été inculpé et incarcéré en Belgique pour assassinat et activité terroriste en tant que dirigeant d'un réseau djihadiste. Paris travaille activement à la libération de Mathias Depardon, ce photojournaliste détenu en Turquie depuis près d'un mois. Le Quai d'Orsay le redit alors que des représentants de l'ambassade de France en Turquie devaient être autorisés aujourd'hui à rendre visite au photographe indépendant. Sa deuxième visite consulaire seulement depuis son arrestation. Enfin, le tennis à Roland-Garros. Novak Djokovic qualifié pour les 8e, mais non sans effort. Le numéro 2 mondial a dû batailler durant 5-7 pour l'emporter sur le 41e. Et puis chez les Français, l'élimination de Lucas Pouille, battu en 5-7, là aussi par Albert Ramos.
France Info.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Voilà, les informés et 6 mois dans l'espace et en redescendant une cérémonie traditionnelle kazakh, rien ne sera épargné à Thomas Pesquet dont on parle. Alors vous avez un peu mangé mon effet, Soisy Kemener. J'allais vous dire que sa popularité n'est pas sans intéresser un autre champion du box-office en ce moment. Écoutez, mais vous l'avez déjà reconnu.
Vous nous avez fait en tout cas rêver pendant tous ces mois, hein, avec... vos images, vos tweets.
Bah écoutez, c'est gentil, j'essaie de partager cette expérience-là avec le plus grand nombre, si ça intéresse les gens. De toute façon, on fait ça pour eux, donc a priori, si ça intéresse les gens, ça fait plaisir.
Ah, vraiment. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point vous avez inspiré.
Tant mieux, j'espère que ça suscitera des vocations chez les plus jeunes pour faire des carrières scientifiques. Ça, super.
Voilà, Emmanuel Macron au téléphone avec Thomas Pesquet. Il rencontrera le spationaute le 19 juin, nous a fait savoir l'Élysée. Jean-Christophe Fromentin, encore un très beau coup pour Emmanuel Macron, non? Je vous embête, là.
Non, mais il travaille les symboles hein, depuis qu'il est élu il y a quelques semaines. Et pendant ce temps, entre les présidentielles et les législatives, il attaque tous les symboles. Et il a de la matière. Vous voyez, il y a eu le symbole européen, il y a eu le sommet en Sicile, il y a ce déplacement sur le chantier STX, il y a
Vladimir Poutine dans la galerie des Poutine, batailles, il y a tout. Versailles.
Et je pense qu'il pose déjà
le tu vois les étoiles avec Thomas Pesquet.
Il pose des symboles. Maintenant, bon, poser des symboles, c'est une chose. Enclencher des politiques publiques, c'est une autre chose. Bon, ben, il joue ce rôle aujourd'hui de poser des balises, des jalons comme ça, qui permettent aussi Français de comprendre comment il veut amorcer, quelles sont ses différentes options, quel est son état d'esprit aussi. On ne peut pas lui reprocher. Maintenant, on pourra lui reprocher si derrière ces symboles, il n'y a pas quelque chose de plus épais, quelque chose de plus continu, quelque chose de plus profond dans les politiques et les options qu'il va proposer.
Mais en attendant, Bruno Dive, beaucoup de com encore.
Ah oui, tous les jours, une belle image, en effet. Bah là, oui, dit, Poutine à Versailles, avec Poutine à Versailles lundi, mardi, bon, je sais plus très bien. Hier, il y a eu les chantiers navals de Saint-Nazaire avec le nouvel actionnariat, c'était pas mal joué aussi. Jeudi, donc la réponse à Trump
et ouvrir. Il fait feu de tout bois, il rappelle personne.
Ce côté feu de tout bois en matière de communication, ça
Oui, ça rappelle un peu Sarkozy, ça nous rajeunit un petit peu de 10 ans, mais là, je crois que c'est moins.
C'est plus maîtrisé,
c'est moins vibrillonnant, je trouve, parce qu'il n'y a pas en même temps tous les commentaires au quotidien, les petites phrases distillées ça et là, donc la communication est beaucoup plus maîtrisée. Et puis, en effet, commencer à l'esquisser, il y a aussi les images qu'il réussit à ne pas montrer, par exemple, même s'il était quand même avec lui cette semaine, avec Richard Ferrand. Ouais, il réussit à le faire remarquablement oublier.
Soisy Kemener.
Bah, effectivement, il écrit son livre d'images. Alors la différence aussi avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y avait un brouillage de communication dans la mesure où il n'était pas le seul à parler, Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez, Claude Guéant s'exprimait dans les médias. Claude Guéant, qui était à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, ses proches parlaient beaucoup, tandis que là, il a réussi à faire un bloc, c'est-à-dire le bloc élyséen. Il n'y a que lui qui s'exprime, ou bien alors quelques conseillers sous couvert de off. C'est aussi pour ça que ça marche. Alors là, pour le symbole, c'est évident. Hein, c'est encore une fois...
Là, c'est facile, à la limite, c'est presque, voilà.
C'est facile, il joue sur du velours et il s'en prive pas. Il est en train de nous dire qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de construire un peu une présidence à la Obama avec des tweets, une présidence d'image. Il a déjà sa photographe qui le suit et qui justement est en train de construire aussi la mythologie macronienne. Donc évidemment, tout ça est très très construit. Mais là, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que à un moment, il va y avoir une herse. Alors, on pensait que l'affaire Ferrand, vous avez vu, je vous livre votre transition un peu trop tôt peut-être.
Là, de toute façon, vous avez décidé de me bouffer toutes mes transitions, de toute manière. Donc,
mais il y a aussi la réforme du Code du travail par ordonnance. Enfin, il y a énormément, il y a des herses qui vont surgir, mais pour l'instant, il arrive à les écarter, à avancer avec de bons sondages, sondages corrects en tout cas.
Virginie Le Petit, Emmanuel Macron, Thomas Pesquet, même combat, De communication.
Ah, de communication peut-être, ça certainement. Après, sur le reste, je ne pense pas, non, effectivement. Mais pour Emmanuel Macron, oui, il y a une espèce d'agenda qui est quand même assez, avec un rythme assez soutenu. Et en plus, je crois que ça se poursuit. Il me semble que demain, il reçoit le Premier ministre indien Narendra Modi, me semble-t-il.
Et que cette et ça, visite... c'est vrai que c'est une information quand même assez importante.
C'est
quoi.
Une information
que le courrier
importante,
international va suivre.
Mais voilà. J'espère et, pas et seulement
je
nous,
que, voilà,
parce que c'est quand même l'une des plus grandes économies. Exactement. C'est l'une des plus grandes économies de la planète et c'est l'un des principaux pollueurs avec la Chine.
Et redonnez-moi le nom du ministre.
Narendra Modi, c'est un premier ministre qui a été extrêmement décrié, qui était persona non grata jusqu'à son élection parce que quelqu'un de lui-même assez populiste et très très conservateur.
Attendez, vous n'allez pas nous faire la fiche Wikipédia
non,
en plus
mais
du premier
mais ce que
ministre
je veux dire,
indien.
Non, mais ce que je veux dire, cette visite par exemple a été avancée. Elle était prévue beaucoup plus tard, donc je ne sais pas qui l'a avancée, mais elle a été avancée. Donc l'agenda est quand même très soutenu sur l'international.
On va suivre ça attentivement, je vous le promets, Virginie Le Petit. Je vais vous surprendre parce qu'on va parler d'autre chose. Et alors là, Soisig Kemener, vous allez être scié. Je voudrais qu'on parle de Richard Ferrand. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important aujourd'hui. Il n'y a pas eu de nouveau rebondissement dans l'affaire Ferrand. C'est à noter, c'est la première fois de la semaine. Richard Ferrand, enferré dans ses affaires immobilières qui datent de l'époque où il était le patron de la Mutuelle de Bretagne. Bref, va-t-il passer un week-end tranquille, Soisig Kemener ?
Alors, on a eu des nouvelles de lui vers 19h06. Ce soir, un mail est tombé dans les rédactions. Donc, il a pris connaissance du rapport sur l'aménagement du territoire, plus que jamais une nécessité, présenté par deux sénateurs. Et on précise à la fin du communiqué qu'il ne manquera pas de rencontrer les auteurs du rapport dans les jours qui viennent.
Eh ben, vous en recevez des mots, des communiqués.
C'est intéressant parce que dans les jours qui viennent, donc ça veut dire qu'il est en train de dire je travaille, laissez-moi tranquille.
Je serai toujours ministre.
Et voilà, c'est le message qui est envoyé évidemment à la toute fin de ce communiqué qu'il faut lire entre les lignes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, Richard Ferrand, selon toute logique, devrait empêcher Emmanuel Macron d'avancer sereinement vers les législatives. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que les Français veulent que Richard Ferrand démissionne. Il y a un sondage d'ailleurs sur votre antenne, si je ne me trompe pas, ce matin, qui disait que voilà ce que les Français demandent. Mais en revanche, quand on regarde de l'autre côté, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne baisse pas le pouce pour le moment et ne demande pas à son ministre de démissionner, c'est que les sondages législatifs sont très bons. C'est-à-dire que pour l'instant,
il peut se permettre
une majorité absolue. La difficulté, c'est quand même de s'asseoir sur la morale, et ça peut revenir comme un boomerang un peu plus tard.
Bruno dit, c'est le supplice de la goutte d'eau là pour Richard Ferrand quand même en ce moment. Oui.
Il peut même, Emmanuel Macron, juste pour rebondir sur ce que disait Soisig, il peut même se permettre de perdre quelques sièges et je me demande même s'il ne se dit pas qu'il vaudrait mieux avoir 350 sièges que 400 comme on le prévoit aujourd'hui parce que les majorités... c'est ce qui est annoncé aujourd'hui par une étude Ipsos et Cevipof dans le monde entre 400 et 420 sièges ce qui est beaucoup et chacun sait que les majorités pléthoriques sont les plus difficiles à gérer. Donc, moi, je me demande quelquefois si Emmanuel Macron ne se dit pas, en son fort intérieur, si ça nous fait perdre 30-40 sièges, si on n'est que 350 marcheurs, ça suffira peut-être. Ça peut être une explication. L'autre explication, c'est, je crois, que Emmanuel Macron, qui n'est pas un sentimental, il sait quand même ce qu'il doit à Richard Ferrand. Ça a été l'un des premiers parlementaires socialistes à le rejoindre. Ça a été un organisateur. C'était vraiment son homme de confiance pendant la campagne, celui qui le représentait dans les meetings quand il ne pouvait pas y aller, celui qui parlait avant lui là où il était. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait un rôle essentiel et il ne peut pas s'en séparer comme ça.
Bruno Dive, les informés, vous restez en place. On continue à débattre de cette affaire Ferrand dans deux petites minutes, mais d'abord 20h50. L'info, c'est avec Agathe Mavet.
L'accord de Paris est irréversible et il sera mis en œuvre. Emmanuel Macron se montre très clair ce soir. Malgré la décision choc de Donald Trump, le président français rappelle que la Chine, l'Inde, la Russie ont réaffirmé leur engagement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Aux côtés d'Emmanuel Macron ce soir, aussi Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Il affirme que si la Maison-Blanche ne le fait pas, les villes et les citoyens américains, eux, se battront contre le réchauffement climatique. 3h20 de descente depuis l'ISS, Thomas Pesquet et Oleg Novitski sont de retour sur Terre. Leur capsule Soyouz s'est posée comme prévu, sans encombre, peu après 16h au Kazakhstan. L'astronaute français aussitôt félicité par Emmanuel Macron. « On est tous très fiers de vous », lui a dit le chef de l'État. Il est désormais, Thomas Pesquet, sur le point de décoller pour Cologne, en Allemagne. Des militants réunis devant l'ambassade de Russie à Paris. Ce matin, ils réclamaient à Moscou l'ouverture d'une enquête pénale après des témoignages de torture sur des homosexuels en Tchétchénie. Une pétition d'Amnesty International contre l'homophobie dans cette république de la Fédération de Russie a recueilli plus de 500 000 signatures. Et puis patience dans les bouchons pour le week-end de la Pentecôte. C'est rouge ce soir encore en région parisienne. Prudence aussi car les contrôles sont nombreux. Plus de 800 policiers mobilisés durant tout le week-end sur les routes d'Île-de-France.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
L'affaire Ferrand en débat dans cette dernière partie des informés ce soir. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes député maire de Neuilly-sur-Seine. Vous avez soutenu François Fillon durant toute la campagne électorale, même au moment où il avait ses plus gros problèmes. Vous avez soutenu Fillon. Est-ce que vous soutenez Ferrand de la même façon?
Non, moi, je
ça
trouve,
vous fait rire, en tout cas.
Pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant l'info, ça peut être son sparadrap, vous voyez. Il est en train de se contredire
d'Emmanuel Macron.
Il est en train de se contredire. Il parle de morale dans un texte de loi. Il dit là, je veux pas toucher à Ferrand parce que même si c'est pas moral, c'est pas illégal. Et donc, moi, je comprends pas. Vous voyez, ce qui est moral ou pas moral dans une loi ne serait pas considéré de la même manière dans les actes. Il y a un paradoxe qui marque ce début de mandat sur un sujet qui a marqué cette campagne.
Bon, mais vous restez bien dans la ligne, quoi. S'il y a pas de problème moral, légal, en tout cas, vous soutenez Richard Ferrand. Il ne doit pas démissionner. J'ai bien compris.
Ah non, moi je pense que vous l'avez compris justement très bien. Je pense que Richard Ferrand doit prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'entends d'ailleurs de dire c'est de l'argent privé donc c'est moins grave que quand c'est de l'argent public, alors là je ne comprends pas du tout cette approche. Je pense que voilà, il y a une manipulation de sa part qui est extrêmement étonnante, vous voyez, de la part de quelqu'un qui était responsable d'un organisme quasiment parapublic, une mutuelle, qui a utilisé finalement cette position pour s'enrichir en ayant cette manipulation un peu dans le temps où il a pris une option qu'il a exercée parce que la carte s'est
retournée de même tenir.
Côté.
Il peut pas tenir.
Non, mais je pense que la différence entre Fillon et Macron, c'est que Fillon était embarqué dans une campagne présidentielle. Macron a été Ferrand a été choisi par Macron pour occuper un ministère.
Donc voilà, c'est plus facile de s'en débarrasser.
À Macron de le débrancher maintenant, sauf s'il considère que c'est une bonne chose pour la politique qu'il va mener. Donc je pense
qu'il
faut.
Il y a une autre différence, c'est quand même que Richard Ferrand démissionnera probablement partirait s'il était mis en examen, ça on en est sûr. Or François Fillon avait dit lui qu'il se retirerait s'il était mis en examen, ce qui n'a pas été fait, c'est quand même.
Non, mais le contexte n'est pas du tout le même. Et encore une fois, vous voyez, je pense que Fillon était embarqué dans une campagne sur laquelle il n'y avait pas de plan B non plus. Véritable plan B. Le plan B ne pouvait pas y aller. Alors que Ferrand n'est pas embarqué dans une aventure. C'est Macron qui est embarqué dans une aventure.
Il y a plein d'autres plans.
À savoir si maintenant Macron veut s'embarquer dans cette aventure avec ce problème qui est un problème de début de mandat, qui encore une fois, je pense, va le poursuivre. Ça va être son Fouquet, l'affaire Ferrand, et qui en plus lance un projet de loi sur la moralisation. Et je ne comprends pas tellement d'ailleurs ce mot moralisation dans la politique. Légiférer sur de la morale me semble quelque chose de très difficile. Mais pourquoi pas après tout? Et là, on a un problème moral qui n'est pas pris en compte dans ce début de mandat. Ça me paraît extrêmement compliqué.
Virginie Le Petit.
Moi, je me demande si c'est pas une question de timing. C'est-à-dire, si Richard Ferrand avait dû démissionner, il aurait dû le faire peut-être plus tôt. Là, on sait pas s'il va être mis en examen ou pas. Finalement, il y a pas de dévissage. Enfin, les sondages restent bons. Donc, effectivement, là, il y a une espèce d'entre-deux. Est-ce que ce serait, puisqu'ils ont attendu jusque-là pour faire quelque chose, pourquoi ne pas attendre un peu plus longtemps? Donc, je sais pas. C'est peut-être ça aussi. S'ils avaient dû être cohérents et fidèles à l'esprit de la loi, justement, de la moralisation de la vie politique, la démission, elle aurait dû se faire dès le début. Maintenant, je ne vois pas ce que ça apporte.
Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train d'entamer une sorte de bras de fer avec la presse, avec l'opinion publique, en disant « Attendez, moi, je reste droit dans mes bottes, pour reprendre une expression d'un célèbre Premier ministre passé.
Mais effectivement, et d'ailleurs c'est ce qui construit depuis le début de son quinquennat, juste ce bras de fer avec la presse, on le sait, il y a un plaisir, on l'a vu dans un film, un documentaire qui a été montré sur France 2, Envoyé spécial, il explique qu'il y a à quel point il déteste les commentateurs politiques, donc il y a une espèce de plaisir à en rajouter, et puis c'est de toute façon que les journalistes font partie des professions les plus décriées, donc c'est taper sur les journalistes toujours facile, ça coûte pas cher, donc dire voilà, vous n'êtes pas les juges, c'est vrai, les journalistes ne sont pas des juges. Là, il y a eu beaucoup d'enquêtes autour du cas Richard Ferrand, parce qu'il y a eu une première salve dans le Canard enchaîné, et puis ensuite il y a eu le travail qui a été fait par les confrères du Monde et de Mediapart assez rapidement, et puis l'ouverture d'une enquête préliminaire jeudi matin. Ça, c'est un fait nouveau cette semaine.
Oui. Bruno Olive, très vite.
Moi, je ne suis pas sûr que Richard Ferrand soit le sparadrap d'Emmanuel Macron, parce que il y a quand même fort à parier que après le remaniement qui va immanquablement intervenir après les élections législatives, qu'il soit discrètement exfiltré, qu'il ne soit plus ministre. Enfin, moi, je serais prêt à prendre les paris de ça. Il sera peut-être sans doute réélu député et il aura un rôle à l'Assemblée.
Il y a la question de la circonscription. Voilà. De ce que je lis, en tout cas, ça commence à bouger un petit peu
dans sa circonscription.
La sixième du Finistère.
Eh bien, merci à vous quatre, les informés ce soir. Virginie Le Petit de Courrier International à la une du Courrier cette semaine.
Terrorisme, la guerre sans fin, comment préparer l'après-Daesh en Syrie et combattre Daesh ici en Occident.
Swazik Kemener, la une de Marianne cette semaine, vous l'avez retrouvée?
Oui, alors c'est un grand classique hein, de Marianne, donc c'est avant les législatives, circonscription par circonscription, c'est député à dégager.
Bruno Dive, merci à vous, demain on verra ce qu'il y a dans Sud-Ouest. Hein.
Je sais que dans Sud-Ouest dimanche, je parle des relations Ferrand-Macron, j'essaie d'expliquer pourquoi il le garde.
Vous ne parlez pas de l'Inde, c'est dommage. Merci à vous Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly-sur-Seine.